C'est gentil. Donc, en quoi le SPF est une illustration du modèle de l'entreprise libérée?
Alors, bon, en tout cas, on essaye et on s'inspire en particulier de ce livre, pas seulement de ce livre, mais aussi d'autres, tels que Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, tels que Ricardo Semler, Dennis Bake, The Decision Maker, ou ce genre de choses. Maintenant, quand je dis on s'inspire, ça ne veut pas dire qu'on va puiser toute notre inspiration là, mais il se fait que moi, depuis des années, je réfléchis à ces choses-là. Et que mes propres, je vais dire, aspirations en tant que manager rejoignent celles que j'ai trouvées décrites dans ces livres-là. Parce que je pense qu'il n'y a pas de formule toute faite pour ce genre de démarche. Donc, est-ce qu'on a une illustration des entreprises libérées telles que le propose Gates dans son livre? Je pense que oui. D'ailleurs, je fais maintenant partie d'un groupe de managers qui, avec Isaac Gates, se réunit régulièrement pour partager nos expériences. Mais voilà, toutes ces expériences sont différentes. Elles ont des points communs qui sont les grands principes que nous essayons de mettre en œuvre et qui sont en gros celui d'une culture d'autonomie, la plus grande possible pour les gens, de respect de chaque personne et de développement de chaque personne.
Ok. Et quel a été votre but, votre vision quand vous êtes venu ici au SPF? C'était de pouvoir justement mettre en pratique.
Oui, bien sûr, c'était de mettre en pratique. Alors, il faut savoir que moi, avant cela, j'ai travaillé pour une banque, une grande banque, dans laquelle j'étais responsable d'une business unit commerciale qui a été jusqu'à à peu près 200 personnes. Et dans laquelle j'ai déjà mis en œuvre des principes similaires. Donc mon ambition ici au niveau du SPF, c'était de mettre en place quelque chose qui serait basé sur ces principes pour une plus grande organisation de 1100 personnes en l'occurrence, et dans le secteur public. Il est clair que travaillant dans le secteur public, on a des contraintes différentes. Et donc effectivement ma vision, si on peut parler ainsi, c'était effectivement de faire vivre ces principes dans une entité publique. Oui, tout à fait.
Ok. Et votre rôle, vous diriez, en tant que leader libérateur de cette organisation,
c'est de faire vivre ces principes, alors, et de trouver, je dirais, avec les équipes les manières de les faire vivre. Donc, alors, ça ne se fait pas tout seul, même si j'avais un peu le fantasme quand je suis arrivé de contribuer le plus à la transformation en ne faisant strictement rien.
Ok.
Je ne vais pas dire ne rien faire dans le sens où on entend l'habitude de ne rien faire, mais dans le sens d'être avant tout présent. Et d'avoir une, si je peux m'exprimer ainsi, une sorte d'énergie positive qui allait contribuer à cette autre dynamique. Donc de mettre avant tout l'aspect sur ce dynamisme, cette énergie, plutôt que sur des actions concrètes.
Okay.
Et bien sûr, ça passe aussi par des actions concrètes. Mais si vous voulez, voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de l'esprit dans lequel j'étais, je suis d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il n'empêche que peut-être la première action importante que j'ai mise en œuvre, ça a été de changer assez radicalement la composition du comité de direction. Et donc sur les 7 personnes qu'il y avait au départ, aujourd'hui il n'en reste plus qu'une. Ça ne s'est pas fait d'un coup, mais voilà, à la faveur de départ, de réorganisation, d'audit, etc., j'ai pu recomposer. Non sans difficulté parfois, ça a pris un an plus ou moins, la composition du comité de direction. Et dans ce cadre-là, voilà, on est arrivé à une équipe dont Quentin, qui arrive, fait partie.
Bonjour.
Bonjour.
Qui est notre DRH et qui a beaucoup contribué à la transformation du SPF selon les principes qu'on vient d'évoquer.
Et ce changement de comité de direction, ça s'est fait comment?
Ça s'est fait de manière progressive, continue, soutenue. Certains où ça allait de source, parce qu'à la limite, certains, comme le prédécesseur de Quentin, étaient eux-mêmes demandeurs de ne plus être dans le comité de direction. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile, mais on a mis les moyens qu'il fallait pour y arriver. Donc voilà, aujourd'hui, on a quand même, même si tout n'est pas parfait, on a une équipe qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus solide que l'équipe initiale dont j'avais hérité. Donc ça, c'était la première grande chose. Après, il y a eu toute une série de mesures que nous avons prises pour pouvoir aller dans ces dynamiques-là, qui sont effectivement le passage en flex desk pour tout le monde, la suppression de l'obligation de pointer, le télétravail beaucoup plus accessible pour l'entièreté du personnel, le passage au cloud maintenant, et puis toute une série de manières de gérer, voilà, qui essayent le plus possible de sortir dans cette logique de contrôle et plutôt de soutien à l'initiative. En fait.
Et j'avais une question par rapport à ce changement de comité de direction, bien que je le comprends et je pense que c'est inévitable pour faire un changement pareil. Comment est-ce qu'on peut essayer pour les collaborateurs d'avoir confiance dans ce modèle si on sait que si on ne rentre pas dans ce modèle, on sera...
C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que si vous voulez faire une transformation pareille pour une organisation d'une certaine taille, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Si vous attendez, s'il vous faut plusieurs années, entre guillemets, avant de convaincre les collaborateurs qui vous rapportent directement du bien fondé de ce modèle, vous n'y arriverez jamais. Et il se fait aussi que les personnes que j'avais dans le comité de direction, certaines en tout cas, indépendamment du modèle qu'on voudrait mettre en place, n'étaient absolument pas à leur place. Donc il fallait de toute façon y passer. Et ça, je pense que beaucoup de membres du personnel le savaient et le comprenaient très bien. Donc ce n'était pas pour eux, entre guillemets, ou je ne pense pas que ça a été perçu, un tel ne rentre pas dans le modèle, donc il est dehors. C'était plutôt, voilà, un tel ne fonctionne pas bien. Et c'est normal qu'on l'écarte. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir.
Il y a eu de la communication pour expliquer
ces changements? Non, pas cela, pas au niveau du comité de direction, parce que on ne pouvait pas parler d'une stratégie à l'avance. Ça doit se faire de manière progressive et trouver le bon mot. Mais vous pouvez pas communiquer là-dessus. C'est pas un truc qu'on communique. De manière générale,
Le comité de direction n'aurait pas changé si le comité de direction était non seulement complet, compétent et dans la lignée de l'arrivée du nouveau président. Donc, c'est pas une condition sine qua non pour réussir le projet de changer le comité de direction.
Non.
En d'autres termes, si tout le monde était dans la lignée, vraisemblablement, je ne serais pas au sein du SPF.
C'est clair.
Voilà.
Mais moi, je comprends tout à fait. Mais c'est juste, je me demandais, est-ce que les collaborateurs n'ont pas un peu peur ou...
C'est sûr que certains ont pu l'interpréter comme ça. Mais bon, ça, ce sont des choses avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Donc, ça me paraît inévitable. Et je pense que quand on regarde les transformations de ce genre, ça arrive quand même assez souvent qu'il y ait un remaniement important du comité de direction. Voilà, donc ça fait partie, entre guillemets, du processus. Et après, je vais dire qu'on n'a pas été, évidemment, de la même façon à tous les autres niveaux hiérarchiques, mais il y a certains niveaux où, clairement, il faut remettre une autre dynamique. Et que, par définition, ceux qui sont dans le contrôle et qui sont à des postes où ils peuvent exercer ce contrôle n'ont absolument pas envie de changer. Et donc vont freiner des quatre mains la transformation, même si en dessous d'eux, ils ont des gens qui sont ouverts à cette dynamique. Donc voilà, ça s'est fait, comme je le disais, de manière très sympathique pour certains, beaucoup moins avec d'autres. Mais voilà, c'est normal, me semble-t-il. Et il faut pouvoir vivre avec les craintes que ça suscite chez certains et les rassurer que, effectivement, le but n'est pas de remanier pour remanier, mais d'avoir des gens compétents et qui sont dans cette dynamique d'ouverture.
Et par rapport au chef, est-ce qu'il y a eu une formation obligatoire? Est-ce qu'il y a eu aussi des suppressions d'échelons?
Alors, il y a deux choses. Un, il n'y a pas eu tout de suite de formation obligatoire parce qu'on n'en avait ni les moyens, ni le temps, ni la possibilité. Maintenant, Nous pouvons le faire et nous avons un programme dont Quentin pourra parler qui s'appelle Drive. Deuxièmement, votre deuxième question, c'était...
Est-ce qu'il y a
des... Oui, des... Non, ça, on ne peut pas.
Ah, ok.
C'est une des contraintes dans l'administration, ça, malheureusement, on ne peut pas. Sauf dans certains services, concrètement dans le service de Quentin, et ça, tu pourras expliquer un peu comment tu réorganises le service HR pour l'instant.
Ok.
Donc, là, au niveau de mon service, simplifié, je suis arrivé, il y avait 4 entités. Bien identifié, recrutement et sélection, gestion administrative du personnel, développement du personnel et développement d'organisation. Plus tout ce qui est, on va appeler ça facilité, et prime, paiement d'allocation. Ça fonctionne, mais pas nécessairement comme moi je le voyais. Et puis c'était fort cloisonné, une communication un peu défaillante, avec des orientations et des visions différentes de ce que doivent être les ressources humaines.
Ah oui, ok.
Et aucune n'était mauvaise. Mm-hmm. Mais à force d'avoir différentes visions et différentes approches, ben on crée le chaos et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et en plus, quelque part, mon service est appelé à illustrer et à être, entre guillemets, l'ambassadeur de ce qu'on devrait mettre en place, mm-hmm, au sein du SPF. Et comme la nouvelle culture ne s'impose pas, ne peut que s'acquérir progressivement, ben c'est surtout l'effet boule de neige, mais positif, mm-hmm, ou l'effet tache d'huile positive, mm-hmm, qui peut faire avancer les choses. Et donc, j'ai mis quand même, maintenant ça fait 6 mois qu'on a fait la réflexion et on a convenu du constat, pour qu'on restructure tout le service et qu'on mette fin carrément aux 4 entités. Et on crée plus qu'une seule communauté de talents. Ce qui veut dire qu'on forme qu'une seule communauté, une seule grosse entité, avec uniquement 3 équipes. 3 équipes dédicacées aux talents, dédicacées à ce que moi j'appelle carrière, donc tout ce qui est derrière ça,
administratif,
okay, mais carrière, parce que quelque part ça, mm-hmm, ça fait partie de la carrière, et tout ce qui est organisation, tout ce qui est procédure, tout ce qui est transversal.
C'est des équipes de combien?
Ça varie, mais vu la nouvelle culture, on a une grosse équipe pour tout ce qui est talent. Donc c'est tout ce que la nouvelle culture, le coaching, les formations, les leadership et tout ça. Donc là, on est pratiquement une bonne quinzaine, et le recrutement aussi. La carrière, on est 8-9, mais ça va encore diminuer. Et tout ce qui est organisation, c'est aussi une grosse équipe, puisque ça sert à tant au support des équipes talent que tout ce qui est matière transversale, et pour lequel on doit travailler. Un exemple, dans l'équipe organisation, j'ai toute la collecte des données statistiques. Mais de manière générale, hein, les absences, les maladies, les congés, mmh, le nombre de personnel, j'ai aussi le monitoring budgétaire. Ce sont des données indispensables pour que nous, on puisse mener éventuellement des politiques dans l'équipe talent. On dit, attention, là, on a dépassé la norme des absentéismes, mmh, dépassé la norme de ci ou de là, et on doit mener des politiques. Voilà. Donc on est vraiment dans de l'alimentation pour mener des politiques beaucoup plus efficaces. Plus de chef, mais que je ne dis pas de bêtises, 8 coordinateurs.
Ok. Qui ont un rôle, qui peuvent prendre des décisions
Qui peuvent prendre des décisions, mais de manière collégiale, à savoir que j'ai mis tout ça en autogestion.
Ok.
Donc la décision doit au moins venir d'une majorité. Mmh. La majorité, c'est 50 plus 1 aussi. Hein. Il ne faut pas faire majorité qualifiée, on ne s'en sort plus. Donc la majorité, mmh, pour moi, c'est 50 plus 1. Mmh. Et donc, voilà. Et ils viennent avec des propositions et on en discute. Et on a deux types de réunions spécifiques par semaine. Le vendredi, je rencontre tous mes coordinateurs, 15 minutes. Et je dis, voilà, qu'est-ce que vous avez fait et quel est l'impact de vos initiatives?
Ok.
Pour voir où est-ce qu'on a déconné, où est-ce qu'il y a eu des problèmes, où est-ce que ça a eu des succès. L'idée n'est pas de sanctionner, pas du tout, mais voir un peu comment on peut améliorer, quel est l'impact de leur prestation. Parce qu'on me dit, oui, j'ai eu une réunion avec telle personne, ça m'en fout. Je dis, oui, mais non, quel est l'impact de cette réunion sur, mm-hmm, ce qu'on doit faire. Donc c'est aussi inverser la logique, et ça c'est un travail au quotidien, ouais, et c'est une gymnastique tant pour moi que pour Laurent. Hein. Mm-hmm. C'est plus facile de dire, t'as fait ta réunion, très bien. Non. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ta réunion? Et c'est plus facile aussi, tu fais ça, 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 et qu'est-ce que tu me proposes? C'est plus long, mm-hmm, c'est plus lent, et parfois ça ne me convient pas non plus, mais c'est un travail à faire au quotidien. Donc, autogestion, 3 équipes, une seule communauté, Et ça se passe bien. Et l'idée, c'est que cette communauté a été créée non pas par moi, parce que j'ai une lubie, mais ça a été un processus évolutif et participatif.
Okay.
Et tout le monde pouvait, dans mon service, postuler dans l'équipe qu'il souhaitait.
Okay.
En sachant très bien que tout le monde allait faire un peu de tout et il allait avoir des backups. Si j'ai mon budgétaire qui est malade ou qui part en vacances, moi je ne sais pas comment gérer le budget. Voilà. Mm-hmm. Et donc j'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire le backup. La même chose pour tout ce qui est statistique, le recrutement et ainsi de suite.
Et ça, c'est d'actualité depuis quand ?
Depuis le 1er mars.
Depuis le 1er mars, ok.
1er mars, donc c'est tout récent. Okay. J'ai eu
félicitations.
Aucun couac pour l'instant.
Mm-hmm.
J'ai bien pour l'instant. Parce qu'il faut voir. Il faut rester très très vigilant. Parce que c'est une nouvelle façon aussi un peu quand même d'évoluer, de travailler. Il y a eu par exemple, la première semaine des inquiétudes. Plus il y a des personnes, oui, mais alors comment mon travail va évoluer, ben oui, ton travail va évoluer, c'est tant mieux. Tu as 38 ans et tu es encore là, encore 30 ans dans l'administration, donc ce serait bien que ton travail évolue. Mais ça, c'est aussi une nouvelle approche. Hein.
Mm-hmm. Tout à fait.
Leur dire, aujourd'hui, l'administration peut t'offrir autre chose.
Et vous avez senti le besoin de suivre ces personnes dans ce changement? Enfin, qu'elles étaient demandeuses d'attention, je sais pas, de...
Ils te le diront jamais.
Ah oui.
Mais c'est toujours après dire oh, merci.
Ok. Mm-hmm.
Parce que c'est la zone de confort. On est dans la zone de confort.
Mm-hmm.
Ils sont heureux, hein. Ils étaient heureux chez moi. Alors, avant que j'arrive, ils étaient heureux. Ils faisaient leur petit boulot. Presque de manière alimentaire. On les emmerdait pas, ni rien. Puis, j'arrive. Et puis, ils se rendent, oh, merci, je vais toucher à autre chose, je vais faire autre chose. Et alors, ce que je voudrais aussi insister, c'est que les coordinateurs, il y en a certains qui vont partir dans un an suite à un projet dans une autre administration, et j'ai les gens identifiés, et tout le monde est d'accord avec le remplaçant. Et tous les remplaçants ont moins de 33 ans.
Ça, c'est intéressant.
Ça, c'est la gestion de talent. Et ce sont des gens qui sont là que depuis un an, qui terminent un stage pour être nommés. Et donc... Parce que c'est eux qui vont me remplacer, ceux qui font. Ouais. Et alors, le gros problème, c'est assurer très rapidement un transfert des connaissances et des dossiers.
Mm-hmm.
Ça va être le tout gros challenge des prochains mois, parce que c'est pas rien.
Mm-hmm.
Voilà un petit peu par rapport à vos CV. Et donc, l'idée, c'est que ça soit, j'aime pas le terme, mais que ça soit. Un laboratoire, pourvu qu'il marche, pour que si le service de Laurent, ou les services d'une ADG maritime, dit « Tiens, j'aimerais bien m'inspirer de ce que tu fais, allez-y. » Sans que ça soit mon propre... que j'ai
ouais,
quelque
ouais.
chose.
Hein.
Allô
oui,
ouais.
Je souhaiterais revenir sur le fait... que donc vous m'avez dit qu'au début votre rôle c'était donc cette énergie positive et que vous étiez souvent là. Est-ce que ça a changé ?
Non. Enfin, c'était pas le fait d'être souvent là, c'est pas ça le point. C'est que si vous vouliez, par votre manière d'aborder les problèmes, par la manière de discuter avec les gens, etc. Voilà, ce soit une dynamique en elle-même, au-delà des actions, des décisions qui sont prises. Qui soit positif pour les gens, qui leur fasse sentir qu'on était dans ce respect, dans cette volonté de développer les gens, et dans cette ouverture à plus d'autonomie.
Mm-hmm.
Voilà, c'est ça.
Okay.
De ce point de vue-là, ça n'a pas changé du tout, non, que du contraire, je dirais.
Mm-hmm. Et vous considérez qu'il ne faut pas être toujours là
Ah oui, je suis persuadé que c'est une bonne chose de... ça peut paraître paradoxal, hein, mais de ne pas être là à certaines réunions où il était prévu qu'on soit là, mm-hmm. et que ce soit d'autres personnes qui soient obligées alors de prendre le leadership de la réunion. À la limite, je veux dire, là maintenant, ces trois derniers jours qui ont été assez terribles, eh bien, je n'étais pas là, j'étais à Berlin pour autre chose. C'est Quentin qui a pris la direction des opérations, il l'a fait de manière excellente, bien mieux que si j'avais été là moi-même. C'est génial. Parce que pour lui, c'était l'occasion vraiment de montrer ses talents en gestion de crise. Ça montre aussi, au-delà de ce que lui a fait, que voilà, il ne faut pas nécessairement que le chef soit là en situation de crise. L'équipe peut très bien s'organiser, parfois même mieux que si le chef est là, pour pouvoir répondre à la crise. Moi, je me rappelle très bien, ça m'avait toujours marqué, que Ricardo Semler disait « Je suis probablement le CEO qui manque le plus volontairement possible toute une série de réunions. » Il dit « C'est très fréquent qu'en dernière minute, je ne participe à une réunion à laquelle tout le monde croyait qu'il était très important que je sois, pour précisément laisser le groupe s'organiser sans moi. »
Okay.
Et bon, ça fait partie de cette philosophie qui n'est pas du tout nouvelle, du leadership, qui est que le meilleur leader est celui dont on connaît à peine l'existence, mais qui a permis à ses équipes d'être capables de s'auto-organiser.
Mmh. Okay.
Et alors, à terme, de se retirer. C'est ce que j'ai fait à la banque après 4 ans à peu près, où vraiment l'équipe avait, c'était très très bien mise en place. J'ai proposé au CEO de me retirer, puis après il m'a dit « Ok, mais reste encore un peu, on va organiser les choses de telle et telle manière. » Et finalement, je suis resté pas loin de 6 ans, mais en véritablement quittant, en ayant la sensation que les gens qui me succéderaient étaient à la limite plus à même que moi de continuer ce qu'on avait initié ensemble.
Donc votre réussite, c'est la réussite de...
C'est la réussite de l'équipe et c'est... d'avoir fait grandir l'équipe de telle manière à ce qu'elle soit capable d'autonomie et donc de bien s'organiser sans nécessairement le chef entre guillemets officiel ou reconnu comme tel jusqu'alors.
Ok. Là, je vais passer au devoir du leader libérateur d'Isaac Goetz,
oui.
qui dit que, notamment, il crée un environnement dans lequel les travailleurs se sentent égaux à travers l'écoute et la communication. Et donc, je vais savoir en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ?
On a fait beaucoup de choses ici, mais je vais peut-être d'abord laisser répondre Quentin. Qu'est-ce que tu dirais qui te vient en premier pour
communiquer ?
Communiquer et ce sentiment de respect et d'égalité intrinsèque.
Dans le désordre, hein, parce que je crois que l'une des plus des dernières initiatives qu'on a faites, c'est les comités de direction ouverts.
Oui, exactement.
Donc tout, enfin, faut savoir une administration. Déjà une entreprise privée, c'est déjà pas facile. Alors une administration qu'on laisse ouvert son comité de direction tous les mois ou toutes les 6 semaines à l'ensemble du personnel, et le personnel peut proposer des ordres à l'ordre du jour. Et qu'on discute de ces points proposés par le personnel et que tout le monde peut voir comment on prend la décision ou qu'on n'en prend pas.
Ouais,
voilà. Je trouve que c'est une preuve d'ouverture et de communication.
Et c'est depuis quand ça ?
Depuis maintenant un an, hein, pratiquement.
C'est quand je dis pas ça.
Oui, c'est ça. Ouais, c'était 6 mois.
Et on va dire en septembre de l'année passée.
Ouais,
ouais.
Ok.
Ouais. Oui, parce que moi de mes paris, en septembre de l'année passée.
Et il y a eu des foules ou...
Non. Eh bien non. Le but, c'est pas d'avoir la foule, c'est un cirque. Mais. Je crois que là où on devrait un petit peu s'améliorer, sur la promotion
du truc.
Parce qu'on le fait chaque fois, il y a des gens qui viennent, des gens qui proposent, mais... Et alors, on a aussi de ces cultures, alors c'est pas pour nous décharger qu'on a peut-être mal fait, mais il y a aussi de ces cultures à l'administration. Oui, mais qui suis-je, moi, pour aller avec le comité de direction ? Il y a encore cette distance, je veux dire, protocolaire et hiérarchique, entre, alors qu'on n'est vraiment pas dans ce schéma-là. Mais
ça reste.
Ouais. Ça reste. On a toujours été... Donc, voilà.
Mais il y a quand même des gens qui viennent. Il y a régulièrement une dizaine de personnes qui viennent, des personnes différentes selon les points. Et donc, voilà. Ça, c'est une façon très tangible de veiller à cette égalité intrinsèque. Il y a eu le développement du plan de management qui a été fait, qui a été ouvert à tous. Après, il y a une petite centaine de personnes qui ont véritablement choisi de rentrer dans la dynamique. On a organisé des groupes de travail, etc. Il y a encore des projets qui en sont aujourd'hui le...
Et puis le fait qu'on n'a pas de bureau.
On n'a plus de bureau. Je veux dire, quand on choisit alors d'être en flex desk, c'est pour tout le monde. Y compris pour le président, pour les directeurs généraux, etc. Ça, pour nous, ce sont toutes des manières tangibles d'exprimer ce respect et cette considération que tout le monde est intrinsèquement égal. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose, que tout le monde gagne la même chose, etc. Ça, il y a toute une série de barèmes dans l'administration qu'on ne peut pas changer. Mais c'est de dire, voilà, c'est pas parce que toi, tu es, entre guillemets, subalterne, que tu n'as pas droit à exprimer une opinion sur la manière d'améliorer ton travail, sur la manière d'améliorer le travail d'ensemble du SPF, etc. Mm-hmm. Et c'est faire vraiment sentir aux gens qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent exprimer leur mécontentement, leurs propositions d'amélioration. Dans ce cadre-là, on a mis aussi les comités des petits cailloux, qui invitent les gens en fait, à faire des propositions d'amélioration et auxquelles les responsables hiérarchiques sont tenus de répondre très rapidement, dans la semaine pratiquement, pour dire d'accord, on va le mettre en œuvre, ou pas d'accord, ou proposer autre chose. Voilà, pour montrer à nouveau aux gens, votre opinion compte, prenez des initiatives, on les soutiendra, on va vous informer, vous pouvez participer au comité de direction. Voilà, c'est vraiment casser cette idée qu'il y en a qui exécutent d'un côté et d'autres qui prennent les décisions de l'autre. Non, c'est beaucoup plus, ça doit interagir beaucoup plus.
Et par exemple, est-ce que vous faites le management baladeur ou est-ce que vous l'avez fait?
Alors attendez, Quentin. Le manager baladeur, écoutez, oui et non. Pas assez, certainement. Je suis un adepte de cela. Mais honnêtement, je n'ai pas fait assez. Je devrais le faire plus. Maintenant, le fait que je n'ai plus de bureau facilite déjà les choses. C'est-à-dire que, d'abord, je ne m'assieds pas toujours à la même place. Mais j'ai quand même tendance à venir plus ou moins dans la même zone, ce qui est d'ailleurs le cas de tout le monde. Et je devrais aller beaucoup plus aux différents étages. Ce que j'avais d'ailleurs fait ces derniers temps, c'était de demander à ce que ce soit moi qui aille aux réunions, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, plutôt que de le faire monter au 9e, parce que je suis nos services sont au 9e, c'est de descendre aux différents étages pour pouvoir aller les rencontrer. Mm-hmm. Mais honnêtement, je ne le fais pas suffisamment. Et ça, c'est fondamentalement parce que j'ai été pris par beaucoup trop d'autres dossiers, je dirais, qui m'ont empêché de le faire comme j'aurais voulu.
Ok.
Peut-être que, là maintenant que Quentin est là, un mot sur les formations des managers. Okay. Drive, tu peux expliquer en quelques mots?
Alors ça, on a mis en place, on s'est rendu compte que toutes les initiatives qu'on a mises en place depuis, on va les appeler ça le début de la dynamique, depuis 2013, s'essoufflent. Parce que les formations, l'accompagnement, le coaching, les séminaires, tout ça, ont leur impact, mais...
Pour arriver.
Ça commence le succès commence à diminuer parce que il faut chaque fois se réinventer et c'est toujours la même personne qui participe au séminaire et donc on tourne un peu en rond. Donc l'idée était maintenant de créer un outil beaucoup plus intégré qui vise à permettre aux équipes, entendu au sens large, donc ça va, les collaborateurs et le chef, qui n'est plus considéré comme un chef à partir du moment où il va suivre ce parcours d'accompagnement.
Okay.
Le drive est un parcours d'accompagnement qui reprend 8 grands modules sur le management, le leadership, sur
le développement de soi, la maîtrise de soi,
la gestion de conflits, enfin plein de choses qui servent à l'équipe, mais que c'est toute l'équipe qui participe ensemble.
Ouais.
Notamment comment réaliser un objectif en commun. Comment gérer un conflit en commun. Et donc, il y a tout ce parcours-là qu'on va mettre en place pendant 2 ans au sein du SPF, et puis le rendre pérenne, en modifiant bien entendu toutes les thématiques en fonction des évolutions du contexte, des besoins aussi, parce qu'on est surtout à l'écoute des gens. Et ça va permettre, on espère du moins, de raviver quelque part un peu cette dynamique, de tiens, voilà, on m'offre encore un outil pour me développer dans le sens de cette nouvelle culture. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à un chef, à un mandataire, à un manager, à partir de lundi, voilà comment tu dois travailler. Ils étaient dans le contrôle, ils étaient dans l'instruction, ils étaient dans donner des ordres. Mmh. Et lundi, maintenant, tu vas superviser, tu vas déléguer, tu vas responsabiliser, tu vas autonomiser. Ça, le samedi, dimanche, ne va pas permettre de passer de l'un à l'autre. Mmh. Donc, c'est un parcours d'accompagnement et montrer que leur rôle, leur fonction est possible, mais ils peuvent l'exercer de manière différente.
Et ce parcours,
et ça, c'est important, parce que les gens ont peur du tout. Mm-hmm. Ah, je perds mon pouvoir, je perds mon influence. Non, tu peux l'exercer de manière tout à fait différente. Et comme je dis toujours, l'expression qui est, je trouve, la meilleure pour moi, on va faire bouger le curseur. Tu restes chef. Et ton curseur va passer peut-être de droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, parce que Tu vas être maintenant plus délégatif, tu vas être plus responsabilisant, tu vas être plus plutôt que voilà,
contrôlant.
Et ça, c'est tant par l'accompagnement, par des formations, du coaching,
l'exemple,
mais c'est aussi ce que moi j'ai fait, l'effet d'entraînement, à savoir que c'est plus le personnel qui va pousser les mandatés, les managers à réfléchir à leur rôle plutôt que nous à l'imposer. Parce que le jour, mon rêve, ça ne se fait pas encore, je pense, hein, mais mon rêve, ce serait, tu vois, dans tel service de X, il fonctionne comme ça. Pourquoi toi, chef, on ne peut pas fonctionner comme ça ?
Oui, c'est ça.
Et le chef va dire, parce que je n'ai pas envie, ça ne fonctionne pas. Il ne pourra pas. Parce qu'il aura. Mais ça, ça ne se produit pas encore. Mais en fait, c'est ça, créer ce contexte-là, de dire, permettre de reprendre, de redonner la parole aux gens pour dire, écoutez, ça fonctionne. Pourquoi on ne ferait pas l'aérien, telle ou telle chose, parce qu'au maritime, ils réussissent à le faire. Et ça, ce serait vraiment l'idéal, ce qui permettrait en même temps, derrière ça, de décloisonner les directions générales.
Ah oui,
c'est aussi un objectif qu'on a quand même nettement amélioré, mais il n'est pas encore parfait. C'est qu'on a des secteurs quand même dans la mobilité qui sont excessivement cloisonnés. L'aérien, le maritime, le ferroviaire, ce sont des gens, des corps de métier, des ingénieurs, des pilotes qui sont dans une corporation, mais c'est pas grave. Mais forcément, ça vit très fort en vase clos. La nouvelle culture, ça doit être quelque chose de transversal, ce qui ne veut pas dire que la culture doit être identique pour tous les DG. Et c'est ça la particularité. C'est que tout le monde doit être ouvert, transparent et communicatif et collaboratif, mais en développant leur propre culture, mais pas leur propre cloisonnement. Et ça, c'est excessivement compliqué. Parce que vous ne devez pas dire à un pilote qu'il doit faire comme un ingénieur. Alors, vous ne pas dire à un juriste ce qu'il doit faire. Les juristes sont...
Et en même temps, apprendre l'un de l'autre, c'est toutes ces difficultés.
Et ce parcours, il sera obligatoire?
Et c'est ça, alors ça c'est la difficulté à Laurent et moi. Et on a des beaux débats en comité de direction. Parfois j'ai envie de rendre des choses obligatoires. Mais alors on se contredit. On se contredit en disant voilà, ce sont pas volontaires, la liberté des gens et l'autonomie.
Mais si j'ai un problème avec mon chef maintenant et que je. Moi j'aimerais bien évoluer dans cette nouvelle culture.
Ça il peut venir dans mon service, il y a de l'accompagnement, du conseil. Ça oui.
Donc, et vous allez trouver mon chef?
On va voir, ça dépend. Il n'y a pas de, règles par rapport à ça, mais ce que dit Quentin est très juste, c'est cette difficulté pour transformer une organisation comme celle-ci, de susciter cette volonté par le bas, entre guillemets, mais en même temps, de veiller à donner des impulsions du haut pour que ça avance. Et que le bas ne s'essouffle pas en essayant de... Et parfois, il va falloir imposer certaines choses, alors que, comme il vient de le dire, ça peut paraître en contradiction avec les objectifs mêmes. Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas être trop dogmatique. Créer une culture d'autonomie ne veut pas dire qu'il ne doive plus y avoir de décisions parfois difficiles, parce qu'une organisation n'est peut-être pas toujours à son bon niveau de maturité. Et donc, comme n'importe quel, si je peux me permettre la comparaison avec l'éducation d'un enfant, même si un père ou une mère veut l'éduquer à l'autonomie, il devra peut-être parfois prendre des décisions d'autorité. Cela fait partie, à la limite, cela aussi, de l'apprentissage de l'autonomie. Donc voilà, tout l'art, parce que c'est un art plutôt qu'une science, c'est de trouver la bonne façon de faire selon les circonstances, selon les personnes, selon les services, selon les directions générales, etc., pour que dans l'ensemble, ça avance le mieux possible dans la bonne direction. C'est vraiment pas évident. Et on a, et on se plante parfois, on fait des erreurs aussi. Mais je crois qu'il faut vraiment sortir de cette idée, et ça rejoint votre première question sur. Le fait de, entre guillemets, recomposer totalement le comité de direction, est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce que ça n'a pas des perceptions négatives par rapport à la démarche? Oui et non, mais c'était absolument nécessaire. Et de la même façon, il y a, pour certaines choses, on va devoir imposer des choses pour aider l'organisation à devenir elle-même plus autonome.
Moi, je suis tout à fait convaincue. Hein. Et dans mes recherches et pour mon mémoire, j'avais justement étudié un peu Burns, qui fait la distinction leadership transactionnel et transformationnel.
Tout à fait.
Et il dit que le meilleur, c'est les deux.
Évidemment. Donc, évidemment, je pense que ça, c'est vrai aussi. Il y a Burns, il y a Nye aussi, N-Y-E, Joseph Nye, qui a d'ailleurs été le conseiller d'Obama ces dernières années. Et son livre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Leadership machin chose. Et il dit cela, effectivement, et il parle de, je pense que de smart leadership, et qui parle effectivement de cette combinaison entre, lui parle de hard skills et soft skills, ou du genre, mais de cette combinaison qu'on doit avoir, et c'est ça, le smart, c'est précisément de savoir quand on est dans du dur, entre guillemets, et quand on est dans plus de l'accompagnement, de l'inspiration, etc., et il faut, c'est tout l'art, trouver la bonne façon d'agir en fonction des circonstances, des personnes, des gens, etc. Il est clair que je ne travaille pas avec Quentin de la même façon que je travaille avec d'autres membres du comité de direction. Quentin a un niveau de maturité, justement, de gestion de lui-même, de gestion de ses équipes, etc., qui fait que, je vais dire, j'ai très peu de choses à apporter à Quentin et encore moins à lui dicter. D'ailleurs, je pense que je t'ai jamais pratiquement imposé quoi que ce soit. Par contre, on parle, dans certains cas, ils me demandent conseil et ça marche comme ça. Avec d'autres, c'est vraiment plus difficile.
Et il y a des gens qui demandent aussi, qui n'aiment pas.
Hein.
Je m'en suis rendu compte ces derniers 48 heures.
Parce que dans cette situation de crise.
Il y a des gens qui préfèrent avoir des autres.
En particulier dans des situations de crise.
Et ils se sentent mieux et ils sont plus performants. Et c'est ça qui est paradoxal. Et je pense qu'il faudrait qu'on en discute, qu'on soit un peu peut-être posé et prendre un peu de recul par rapport à ça. Parce que ces deux derniers jours, je me suis rendu compte que.
Vu beaucoup de choses.
L'instruction, et on passait de l'un à l'autre, comme tu le dis, du soft à l'hard, il y a des situations qui l'exigent vraiment. Et
puis dire
tiens, qu'est-ce que tu penses? Et tiens, voilà, réfléchis. Non, normalement, ce sera comme ça. Oui, non. Ce sera comme ça. On a 5 minutes pour prendre une décision. Ça sera comme ça. Et alors, l'approche liberté-autonomie, elle s'efface parce que la situation l'exige. Et c'est ça qui peut être important. C'est la situation qui détermine le type de gestion, de commandement, d'instruction qui est très important. Mais dans la même situation de crise, il y a d'autres points qui peuvent être revenir à une logique beaucoup plus de collaboration et d'échange. Je prends un exemple. Quand on a décidé, oui ou non, de retirer, par exemple, la confidentialité, certains badges à des gens qui ont accès aux aéroports, c'est pas qu'est-ce que tu en penses. Ce sera ça, oui, c'est inadmissible. Mais la communication qu'on va faire, on rend hommage aux attentats, et tiens, on passe en revue tout le comité de direction, le message qu'on va faire, parce qu'on est collégial, et on doit être d'accord sur le message qu'on veut faire passer. Et parfois, on a passé, hier et avant-hier, une demi-heure sur une phrase. Ça fait partie de la gestion de crise, mais sur une phrase, on dit, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est trop dur, oui, il faudrait être plus compréhensif, et voilà. Et donc, l'autre point, c'est de nouveau trancher. Et donc, c'est vraiment... Dans la journée, on peut passer de l'un à l'autre des dizaines de fois, quoi.
Et je trouve que de ce point de vue-là, Heifetz, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Ronald Heifetz, c'est un gourou du leadership à Harvard, qui distingue bien de ce point de vue-là dans ses livres du type The Adaptive Leadership ou Leadership Without Easy Answers, qui montre bien la différence du type de comportement qui est requis du manager ou du leader, ce qu'il appelle des problèmes techniques et des problèmes adaptatifs. Problèmes techniques, c'est effectivement ceux pour lesquels un expert, entre guillemets, peut donner une solution tranchée et l'imposer au groupe sans que cela pose problème parce qu'effectivement, il a l'expertise et dans cette situation-là, il vaut mieux que les gens suivent les conseils de l'expert et qu'ils l'appliquent sans trop se poser de questions. Et puis, des situations de type adaptif ou adaptative qui requièrent en fait un changement de vision du monde de la part des personnes qui vont devoir appliquer la solution. Et dans ces situations-là, ça n'a aucun sens que même si un expert pouvait avoir une solution, qui d'ailleurs, à mon avis, n'existe pas, qu'il l'impose. Parce que vous n'imposerez jamais aux gens de changer de vision du monde. Il n'y a que eux qui peuvent en décider. Et pour cela, c'est eux-mêmes qui doivent faire le travail sur eux-mêmes. La seule chose que peut faire alors, entre guillemets, l'expert ou le leader en l'occurrence, c'est de mobiliser le groupe à effectivement faire ce travail sur lui-même. C'est très très différent. Et donc, voilà, il faut bien reconnaître ces différents types de situations de manière à pouvoir opérer en fonction. C'est fondamental, je pense.
Une grande capacité de... Pas d'empathie, une grande capacité de pouvoir accepter, sur ça j'ai parfois dur, accepter que tout le monde n'a pas ces mêmes visions, ne partage pas parfois ces mêmes orientations, et avoir cette capacité de prendre sur soi, et d'accepter, et pas nécessairement de le montrer, et ça, c'est parfois j'ai très dur, mais toi aussi. Et ça c'est primordial, parce que si on ne le fait pas, on va dire que c'est du vent. Ce qu'ils vendent, c'est que voilà, ils n'illustrent pas ce qu'ils.
Okay.
Et ça, c'est important. Mais c'est un travail quotidien, aussi.
Oui, et puis alors, c'est cela, comme tu le dis. C'est d'abord ne pas imposer, entre guillemets, sa propre vision du monde, parce que ça ne sert à rien et ça ne va favoriser que des antagonismes, etc. Mais plutôt à essayer de travailler la propre mobilisation des gens. Ça peut être aussi, si on va un pas plus loin, dans ce que j'appelle, ou dans ce que Heifetz plutôt appelle, orchestrer le conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte qu'il y a un débat qui peut être un vrai conflit, qui s'installe pour que l'ensemble des parties qui doivent changer de vision du monde commencent à le faire. Et ça, je pense que c'est très très important. Et orchestrer de tels conflits, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est probablement une des voies pour mobiliser les gens et faire en sorte qu'ils commencent à faire face véritablement à leurs problèmes et qu'ils soient capables de changer leur vision des choses.
Ok. C'est pas facile, hein?
Non, c'est pas facile.
Alors peut-être l'un des facteurs... Non, c'est même pas ça, c'est même pas un facteur critique de succès. C'est des gens qui peuvent porter ce genre de dynamique, parce que c'est pas un projet. Hein. Si on parle de projet, on est foutu. Dynamique, de ce dynamique, ce sont des gens qui ne supportent pas d'avoir aussi une bureaucratie ou des petits chefs et trucs comme ça. Ça, je m'en suis rendu compte aussi. On est les meilleurs ambassadeurs.
Dans la mesure où nous-mêmes...
On ne supporte pas qu'on nous mette des petits chefs, on a une bureaucratie lourde, voilà. Il y a des gens qui sont habitués à ça et qui les rassurent. C'est pas eux qu'on va pouvoir demander de dire, voilà, demain tu vas tenter de modifier le mode de fonctionnement d'une organisation. Non. Et j'aurais pas pu le faire. Et je confirme ici, j'aurais pu être peut-être un bon RH ou un médiocre RH, mais j'aurais pas pu défendre ce que je suis en train de défendre et de le croire, si... mon parcours était fait de petit chef, de sous-chef, de re-sous-chef avant d'arriver. J'ai eu un parcours qui a permis de dire que j'avais maximum eu un chef ou deux au-dessus de moi. Grand maximum, et encore, c'était aussi des gens qui n'étaient jamais là. Donc,
En même temps, ce qui me semble évident, c'est que les générations actuelles sont en train de changer par rapport à tout cela. Et effectivement, la forme et la structure hiérarchique qui ont prévalu jusqu'ici, et qui ne datent pas de si longtemps, commencent à être complètement dépassées. Donc, je crois que ça va être inévitable qu'on aille dans ce type de dynamique.
Le problème, c'est qu'on ne nous engage plus.
C'est enfin, vrai. C'est vrai. Oui, en partie. Mais je pense que là aussi, c'est... En fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même une... C'est la fin, à mon avis, de l'entreprise comme se justifiant par le fait qu'elle réduit les coûts de communication pour assurer la meilleure production. Parce que c'est ça une entreprise. Ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est fondamental à le comprendre. Là, c'est Ronald Coase qui a bien montré cela. C'est que la raison pour laquelle on crée des entreprises... plutôt que laisser le marché organiser les forces productives, c'est qu'on se rend compte où on se rendait compte que, au sein même de l'entreprise, la structure hiérarchique permettait une prise de décision et une allocation des ressources plus rapide et plus efficace que si on laissait les gens faire partie d'un grand marché. Donc c'est ça, en fait. C'est améliorer, entre guillemets, la production au travers d'une réduction des coûts de communication. C'est la justification d'une entreprise. Or, qu'est-ce qui se passe depuis quelques décennies maintenant? C'est que la révolution technologique, couplée à une transformation aussi au niveau social des attentes des gens, etc., font que, probablement, il n'est plus nécessaire de passer par les grosses structures bureaucratiques hiérarchiques pour pouvoir assurer cette bonne allocation des ressources. Mmh. Et donc, en fait, alors, c'est pas pour demain, mais c'est peut-être pour dans 100 ans, la forme de l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui va complètement perdre de sa justification d'existence.
Ok.
Donc, c'est pas simplement qu'on vous engage plus, entre guillemets, parce que les boîtes, entre guillemets, ne voudraient plus engager les jeunes. C'est juste que, à mon avis, c'est un modèle d'organisation de la production qui est tout doucement entré dans sa phase de déclin, voire de disparition. Mm-hmm. Et on trouvera d'autres modèles. Et de ce point de vue-là, sociocratie, holacratie, etc., sont toutes des tentatives pour commencer à essayer d'organiser efficacement, dynamiquement les ressources productives, voilà, en prenant en compte les aspirations nouvelles et différentes des gens, les moyens technologiques qui permettent toute une série de choses qui n'étaient pas permises avant, etc. etc.
Ok. J'avais aussi une question par rapport à l'adhésion des valeurs. Le leader doit également faire adhérer les travailleurs à la vision de l'organisation. Et je voulais savoir comment en pratique ce travail se... Les valeurs d'ailleurs du SPF, parce que j'ai vu qu'il y avait collégialité, responsabilité, orientation client. Mmh. Et puis j'ai vu aussi que donc ça c'était dans le plan de management 2013-2019 et dans le rapport annuel 2014, il y a confiance, service et responsabilité.
Ça évolue un peu en fonction des... C'est pas, honnêtement, moi c'est bien, on peut s'amuser avec tous ces documents, etc. C'est important et en même temps c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est ce que portent au travers de leurs actes, au quotidien, les responsables, les managers de l'organisation. Mm-hmm. C'est ça qui est le plus important. Et de ce point de vue-là, voilà, on essaye de faire vivre ces valeurs. Voilà, c'est ça qui compte.
Les valeurs...
En fait, je pourrais pas dire ce que je dis. Il faut pas le mal à l'écrire. Hein. Je comprends pas aux valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs ne se discutent pas. La seule chose qu'on peut discuter, c'est l'échelle des valeurs. Donc, je ne peux pas dire que la responsabilité, la notion de, ou la valeur de responsabilité doit être la valeur la plus importante pour mon personnel, parce que tout le monde met quelque chose d'autre derrière le
terme de
responsabilité. Donc, c'est quoi la responsabilité? Voilà, la notion d'autonomie, mais il y a des gens qui ne veulent pas être autonomes. Donc, je ne peux pas imposer que l'autonomie était la valeur centrale de notre SPF. Voilà, donc, je suis toujours sur la question de valeur. Moi, j'ai vraiment un gros souci à la mettre justement en avant, parce que c'est tellement fluctuant. Et à tout point de vue, hein, pas uniquement dans le monde du travail, dans le monde de l'organisation. Quelqu'un qui est pour l'avortement, ouais, t'es pas pour la vie. Ben si, justement. Ouais, tu comprends pas. Quelqu'un qui est contre l'avortement, mais t'es un salaud. Ben non. Les deux valeurs sont fondamentalement défendables. Mm-hmm. Maintenant, je peux pas critiquer. Donc c'est exactement la même chose dans mon organisation. Je suis pour le mariage gay, je ne le suis pas. Parce que si on va dans le... Qui suis-je pour vous critiquer l'un ou l'autre? Et donc, qui suis-je, moi, en tant que DRH et Laurent en tant que président, de dire la responsabilité, ça va être la notion fondamentale de notre organisation. Moi, j'ai la notion fondamentale, c'est qu'on se fait payer par les citoyens, donc nous sommes redevables envers les citoyens de rendre le service le plus optimal et le plus efficace possible. c'est la raison d'être. Mm-hmm. Et donc, je serais d'avis, plus ou moins d'avis, de parler de raison d'être d'une organisation que de valeur d'une organisation. Mm-hmm. Si vous prenez toutes les administrations du monde, et de Belgique, toutes les entreprises, elles ont toutes des valeurs.
Oui.
Les entreprises privées, c'est quoi ? Mais c'est que ça rentre. Mm-hmm. Alors, ce qu'on va dire, une comme valeur, c'est la rentabilité. Il y en a qui doivent le faire, mm-hmm. hein. Mais c'est peut-être moins sexy. Hein. Mm-hmm. Et ce qu'une administration, on va dire, c'est la responsabilité, non ? Mm-hmm. Voilà.
Ouais, disons, oui. À nouveau,
c'est particulier hein, comme discours.
Ce qui nous importe plus, nous, c'est vraiment de faire vivre une certaine attitude, une certaine façon de se comporter, qui se traduit par la mise en avant, la perception de certaines valeurs par le personnel. Les communications, les rapports peuvent y aider, mais on n'y est pas non plus trop attaché.
Oui, il n'y a pas eu « voici nos valeurs ». Enfin, mais je pensais qu'il y avait eu un workshop.
Il y a du travail sur les valeurs, parce qu'on ne peut pas ne pas en avoir, mais...
On est d'accord, c'est celle-là, mais ce n'est pas ça qui...
C'est le fait d'avoir travaillé, entre guillemets, en petit groupe là-dessus, qui fait vivre ces valeurs dans l'administration. Ce qui fait vivre vraiment les valeurs dans l'administration, c'est au quotidien, la façon dont on prend les décisions, la façon dont on communique.
Mais c'est ça qui vous guide, non ?
C'est ça qui nous guide.
Mais les valeurs aussi vous guident pour...
Moi, je dirais que c'est surtout les trois grands principes que je vous ai évoqués. Et il se fait que... Voilà, ayant moi-même ces trois grands principes, suite à des discussions, etc., avec les équipes HR et autres, etc., on est arrivé dans le cadre du plan de management avec les valeurs que vous avez évoquées, qui moi m'allaient très bien, dans l'esprit que vient de donner Quentin. Je veux dire, si à un moment, moi je vous dis, hein, moi c'est respect, développement, autonomie. Si demain, l'équipe dit « oui, mais on voudrait ajouter celle-ci, orientation client », je dis « c'est très bien, hein, j'ai pas de soucis
». C'est les trois qui disent, moi, en tant que RH, moi, c'est le sens, plaisir, fierté. SPF, moi, c'est le sens,
c'est
plaisir,
bien,
fierté.
Ça, voilà. C'est très bien, ça se rejoint tant que, entre guillemets, les gens sentent que l'énergie de Quentin va dans le même sens que la mienne. Mmh. Moi, c'est ça qui compte.
Ok. Voilà.
Tout le reste, c'est des mots, c'est pas important.
Mais c'est une question, hein. C'est parce que je crois que dans le modèle, il y a les valeurs.
Tout à fait.
Mais vous dites le terme, et ce que dit Laurent, je rappelle dans notre terme, il faut pas être dogmatique, vous dites, c'est dans le modèle. Ça fait des décennies qu'on parle de valeurs, d'une organisation doit avoir des valeurs. Si ces valeurs étaient si pertinentes, le monde tournerait mieux, hein.
Ouais.
Et donc à ce moment on doit réfléchir, est-ce que c'est encore la priorité de mettre des valeurs dans une organisation pour qu'elle fonctionne correctement? Oui, on ne doit pas faire n'importe quoi. Quand on a résumé, le SPF ne doit pas faire n'importe quoi.
Ouais. Voilà. C'est notre première.
Voilà. Et après on avance. Je pense pas que c'est le modèle clé de.
J'ai pas envie non plus que, comme me dit Quentin, moi c'est pas mon truc d'imposer, je sais pas, trois ou quatre valeurs qui seraient l'espèce de bloc en béton de toute l'organisation. Non, ça c'est souvent ce qui se passe après. En fait, c'est ce qu'on appelle en allemand Hineininterpretierung. Donc c'est, on réinterprète après ce qui s'est passé. On dit c'est parce qu'on avait ces valeurs-là qu'on a fait ce qu'on faisait. Mais sur le moment même, les gens ne discutent pas des valeurs. C'est pas ça qui est important.
Ok. Et enfin, par rapport à ce leader, créer un environnement favorable à la satisfaction des besoins de développement. Mm-hmm. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qu'on entend par le développement du personnel?
Alors, pour moi, c'est vraiment le développement de la personne et pas seulement du professionnel ou de la ressource humaine, entre guillemets.
Ah oui, okay.
C'est vraiment, de ce point de vue-là, j'aime bien le concept de wholeness, de prendre toute la personne. Et c'est de trouver les moyens qu'au travers de son travail, la personne puisse vraiment grandir en tant qu'être humain. Je dirais que pour résumer cela, la personne avec qui m'a d'ailleurs remplacé à la banque après, et avec qui enfin, quand je suis arrivé à la banque, elle était une des relationship managers, et puis elle a grandi de telle manière à pouvoir me remplacer après 6 ans.
C'est quelqu'un qui m'a dit, à la fin, écoute, en fait, ce que j'ai appris de toi, ça ne m'a pas seulement servi au niveau de ma carrière, mais ça a changé complètement la façon dont je vis ma vie. Ça, c'était le plus beau compliment qu'elle pouvait me faire, parce que voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir contribué au travers de notre relation de travail à ce qu'elle grandisse en tant que personne, et pas seulement en tant que professionnelle. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi. Alors, on n'y arrive pas de la même façon avec tout le monde, mais si on a cette attention, si on a cette aspiration, je pense que c'est bien. Je pense que de ce point de vue-là, la relation qu'on a, Quentin et moi, c'est une relation qui, même si on n'est pas en train d'aller boire des bières tous les soirs, loin de là, c'est une relation où on sent qu'on n'est pas seulement dans le fait de s'aider à grandir au niveau professionnel, mais en tant qu'être humain, tout simplement. Moi, c'est ça qui me paraît important. Alors après, ça peut prendre diverses manières. À la banque, moi, j'avais veillé à ce qu'on puisse véritablement sortir des formations habituelles pour former, pour que les gens, qu'ils puissent même faire des choses, à la limite, des formations qui n'avaient rien à voir avec le secteur bancaire. Ça se fait aussi dans d'autres boîtes. Ici, c'est plus compliqué pour différentes raisons. Mais voilà, c'est en tout cas l'idée que le travail, c'est avant tout, ne l'oublions pas, un lieu de rencontre sociale, en fait. Et ça, même dans les entreprises privées, quoi qu'on dise que le but ultime soit de, pour ces boîtes-là, soit de créer des profits, avant tout, la plupart des gens vont au travail pour rencontrer d'autres, pour être en interaction avec eux et pour grandir. Tout simplement, dans beaucoup de cas, c'est pas ça qui est mis en avant. Et je pense que voilà, il faut rétablir un peu l'équilibre de ce point de vue-là.
Et en pratique, c'est via l'autonomie et la responsabilité.
Bien sûr, ça contribue beaucoup. Mais ça peut être au travers de plein de choses. C'est de donner des responsabilités à des gens qui n'en avaient pas jusque-là. C'est leur faire confiance pour assumer ces responsabilités. Prenons un exemple. Bon, mon assistante là maintenant, Christelle, bon, bah, elle fait beaucoup plus que ce que faisait n'importe quelle assistante, je pense, jusqu'ici, en étant assistante d'un président, parce que je lui donne beaucoup plus d'autonomie et elle joue presque un rôle de coach par rapport à certains membres de l'équipe, etc. Bah, je trouve, et elle, ça lui plaît. Voilà, donc c'est ouvrir ça. Ce que fait Quentin maintenant avec ses équipes, c'est un peu du même acabit.
C'est bien que je vais réussir. Hein. On va peut-être faire un peu marche arrière parce qu'on aura eu des couacs.
Mais c'est essayer ça. Ouais. C'est faire confiance aux gens qui peuvent faire plus.
C'est pas une valeur. C'est peut-être un mode un principe ou un mode de fonctionnement. C'est oser.
Oui, oser, faire confiance.
Oser se tromper.
Oui.
Oser se tromper.
C'est le développement personnel, c'est dans l'idée de traiter les gens comme des adultes.
Bien sûr.
C'est bien sûr, ok. Bien sûr.
Et tout se relie de ce point de vue-là.
Qui serait Laurent, qui serais-je pour imposer les gens à se fonctionner différemment de ce qu'ils sont dans leur vie privée? Vous prenez des décisions bonnes ou mauvaises. Hein. Vous avez d'autonomie, vous avez une capacité de réflexion, vous avez une volonté de faire des propositions. Eh ben, pourquoi je ne pourrais pas avoir la même chose dans l'organisation? Pourquoi, quand vous êtes rue du progrès, vous êtes autonome et quand vous passez ici, vous travaillez pour moi, tu te fermes ta gueule, tu fais ce que je te dis.
C'est ça qu'on essaie de changer.
C'est uniquement ça, si on doit résumer. Si on doit résumer un truc, c'est ça. Hein.
C'est créer une. Une dynamique dans laquelle on peut véritablement. Où les gens ont envie de prendre des initiatives, se sentent capables et ont la liberté de le faire.
Je suis désolé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées, vous m'avez. De toute façon, n'hésitez pas, je suis désolé.
14h30, hein, c'est ça?
14h15 en
15,
bas.
15 en bas.
Mais on se verra peut-être avant si on a un retour de
Jacques.
D'accord. Ça va?
D'accord, ça va.
Merci.
Voilà, n'hésitez pas. À bientôt. Hein.
À bientôt, au revoir. Au revoir. Ouais. J'ai vu qu'on avait.
Ça va.
Si vous devez partir...
C'est bon.
Ok. Donc, donc ça, c'était les valeurs. Ah oui. En fait, le bien-être des travailleurs, c'est par rapport à ça, c'est au développement personnel. Parce qu'évidemment, enfin, pour être tout à fait honnête, donc j'ai été ici, j'ai été aussi au SPF Sécurité Sociale, et il y a le bien-être physique, donc par rapport à l'ergonomie, au bruit, à la ventilation ici. Est-ce que c'est pas la priorité ?
Si, ça fait partie aussi des choses. Je veux dire, pour moi, d'un point de vue ergonomique, etc., on a fait un énorme bond par rapport à ce qu'on avait avant. Si vous voyez avant, les bureaux fermés, poussiéreux, glauques, etc., dans lesquels les gens devaient travailler. Bon, ici, on a des bâtiments lumineux maintenant, ouverts. On a veillé à une ergonomie au niveau des chaises, de toute une série de choses. Donc, de ce point de vue-là, on est
beaucoup mieux. Il y a
une amélioration certaine.
Okay.
Mais je dirais que c'est pas... Le bien-être au travail, ça va bien au-delà de cela. Ce n'est qu'un de ces multiples composants. Je pense que le plus important, justement, c'est que les gens puissent sentir qu'ils sont dans un environnement de travail dans lequel ils peuvent véritablement avoir l'autonomie qu'ils désirent. Et certains vont en avoir besoin de plus que d'autres. Et de se sentir respecté, que leur boulot a fait sens, qu'ils peuvent se développer en le faisant. Sans ça, il y a du bien-être. Le reste, c'est important, mais c'est secondaire.
Et vous avez des chiffres où j'aurais peut-être dû...
Oui, Quentin, on a sur...
Sur souhaite la performance, enfin...
Oui, on n'a pas beaucoup de chiffres en tant que tel. Pourquoi ? Parce que d'abord, on n'en avait pas avant, et j'ai pas jugé que c'était vraiment la chose la plus importante. Mais ce qu'on peut dire, c'est plusieurs choses. C'est qu'en tout cas, au niveau du traitement des dossiers, on s'est nettement amélioré. Donc du temps de traitement, on a réduit toute une série de retards qu'il y avait dans certains services.
Notamment par la digitalisation ?
Alors, c'est une des façons, mais c'est surtout, à mon avis, par une autre façon de travailler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la qualité aussi. On a quand même pas mal d'indicateurs qui montrent que la qualité des services s'est améliorée. J'en veux pour preuve les audits qui ont été faits ces derniers temps par différents organismes externes qui ont clairement dit qu'il y a une amélioration notoire de votre façon de travailler, de vos services, la façon dont ils sont perçus par nos clients. Donc, je pense que sans avoir de chiffres précis à vous donner, on peut dire qu'il y a une nette amélioration. Et ça pourrait se faire via un 360 degrés ou une interview plus systématique de nos clients ou stakeholders. Malheureusement, on n'a pas vraiment les moyens ni le temps de le faire. Deuxième chose, c'est qu'au niveau du taux d'absentéisme, ça a chuté aussi.
Et c'est
en deçà de ce que, en deçà de la moyenne des institutions fédérales, en tout cas, que nous avons quand même pas mal de gens des autres SPF qui veulent nous rejoindre. Donc voilà, c'est autant d'indicateurs qui me laissent penser que l'ambiance est plutôt bonne. Puis enfin, je dirais un autre indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est que nous avons maintenant 3 ou 4 entreprises par semaine qui viennent voir la façon dont on fonctionne. Ce qui me laisse penser aussi que ça a plutôt de bons échos. Mais à nouveau, on a trop peu de temps que pour s'occuper de ça. Et j'aime bien ce que raconte Zobrist là-dessus, vous connaissez sûrement. C'est que, en gros, si de toute façon, nous, maintenant, on s'est mis pour objectif qu'on ne livre jamais en retard, c'est le cas de Favi, il n'y a pas besoin qu'on suive des statistiques sur le fait qu'on ne livre pas en retard. Non, on ne livre pas en retard, point barre, c'est tout. Donc, voilà, je suis plutôt un peu dans cette dynamique-là, mais c'est vrai que ce serait mieux de pouvoir le démontrer noir sur blanc, ce que je n'ai pas, tant pis.
Mais... Déjà, le taux d'absentéisme, moi, je pense que...
C'est déjà un truc assez fort, effectivement.
Et de toute façon, enfin, je ne sais pas si dans l'administration publique, on peut avoir réellement les chiffres bénéfices ou de...
C'est plus difficile, c'est clair. C'est clair, donc ce serait plus des chiffres opérationnels en termes de réduction de délai de traitement des dossiers, etc. Mais comme on ne l'a pas mesuré par avant, etc., j'ai du mal à le dire. Et franchement, sur le fond, je m'en fous. Je sais que ça... Allez, il y a suffisamment d'indicateurs qui montrent qu'on performe beaucoup mieux qu'avant, sans avoir besoin de les suivre systématiquement.
Ok.
Ça se fera peut-être un jour, mais aujourd'hui, on n'a pas encore eu le temps.
Et enfin, cette... Oui. Je me demandais si vous auriez des améliorations ou des points d'attention par rapport à ce déroulement du changement, les difficultés que vous avez rencontrées ou alors ce qui vous a surpris ou qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile.
Ici, je dirais que ce qui a été difficile, ça a été et ça reste la relation avec le cabinet.
Ah oui.
Qui nous freine vraiment beaucoup, à beaucoup d'égards, parce qu'ils ne sont pas du tout dans cette logique-là, et qu'ils sont nos supérieurs, au niveau hiérarchique, entre guillemets, et que ça a créé beaucoup, beaucoup de tensions inutiles, beaucoup de travail inutile, de contrôle inutile, voilà, ça c'est vraiment très très dommage. Sans la présence du cabinet, on aurait pu, à mon avis, aller beaucoup plus loin. J'aurais pu moi-même y consacrer beaucoup plus de temps. J'ai dû vraiment me partager beaucoup trop de mon temps à la résolution de certains des conflits avec le cabinet. Ça c'est vraiment dommage. Ça crée aussi des dissensions parce que même dans l'équipe actuelle, même si elle est plus en phase avec tout ce qu'on essaie de faire, vu les tensions avec les cabinets, certains essayent de jouer sur les deux tableaux.
On ne veut pas trop se mêler.
Okay. Donc on n'a plus la même dynamique de ce point de vue-là.
Mais moi, je ne m'y connais pas dans le monde du travail, mais je me demandais justement, ça me surprend que le cabinet, si on choisit un président pour conduire l'organisation, mais c'est son travail.
Oui, mais c'est là que le problème, c'est exactement ça. C'est, le problème, c'est que le politique veut se mêler de tout et il s'en mêle mal. Voilà, donc c'est complexe.
Okay.
Et en fonction du niveau de maturité du cabinet et du ministre, ils comprennent un peu mieux ce que vous dites, mais dans beaucoup de cas, non. Mm-hmm. Ils veulent alors directement intervenir au niveau de la gestion même du...
Et ils ont le droit.
Oui. Je veux dire, là maintenant, par exemple... je ne sais pas si vous avez un peu suivi les conflits qu'il y a eu avec Mme Galland. Non, vous n'êtes peut-être pas au courant. Peu importe.
Je sais que ce n'est peut-être pas la meilleure ministre.
C'est ce qu'on dit. Mais il se fait qu'elle nous a accusés en novembre de l'année passée de l'avoir induite en erreur. Nous avons été convoqués tous les deux au Parlement.
Ah, c'est vrai.
Cela, ça fait... À l'époque, ça a fait un peu la une des journaux. Et j'ai pu démontrer que c'était faux. Mm-hmm. Et qu'elle avait menti. Ou du moins qu'elle n'avait pas dit la vérité. Mais ça revient au même. Voilà. Ça crée évidemment des situations très, très, très difficiles. Et depuis, elle vient... maintenant plus systématiquement, mais pendant une période, tout le temps au comité de direction. C'est un peu comme si le président du conseil d'administration était là systématiquement aux réunions du comité de direction.
Okay.
Et que le président soit lui-même en pétard avec le chief executive. C'est pas vraiment bon pour la bonne dynamique des équipes. Or, c'est ce qui se passe un peu pour l'instant. Donc, ça crée vraiment des tensions inutiles, une plus grande difficulté à parler des choses importantes. Et alors après, il y a des tas de choses du genre, elle a mis pratiquement 8 mois pour approuver notre plan de personnel. C'est juste pas possible. Elle invite des collaborateurs du SPF à des réunions et on leur dit au cabinet de ne pas m'en parler. Si je vais au cabinet alors que certains de mes collaborateurs sont invités, on me refuse l'entrée du cabinet, des choses comme ça, qui font que, franchement, ça va à l'encontre de l'esprit et des valeurs, si on veut revenir là-dessus, de confiance.
Puis c'est pas du tout constructif.
Mais bon, soyons clairs, pour eux, l'important n'est pas la bonne gestion de l'administration, c'est de que l'administration fasse ce que eux veulent avant tout. Et ils prétendent que, vu le primat du politique, voilà, ils peuvent, entre guillemets, décider ce qu'ils veulent. Et moi, mon approche est quand même assez différente de ce point de vue-là. Oui, nous sommes là pour servir le politique, mais pas aveuglément, pas au détriment de l'intérêt général. Donc, si ils poursuivent ce que je perçois être comme des intérêts particuliers, je suis désolé, je ne veux pas collaborer de bonne guerre. Non, ça non.
Mais c'est pas quelque chose... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui vous attriste et qui pourrait vous faire changer de direction.
Bien sûr, bien sûr. À un moment, il faut savoir effectivement... allez, si ça vaut la peine de continuer dans un tel, dans un tel climat.
Ouais.
Et avec quelqu'un qui, clairement... dans le cas présent, veut absolument que vous partiez le plus vite possible. Et qui se fout, mais alors complètement, de tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent. Ça, la réorganisation, la meilleure gestion du SPF, ça ne l'intéresse absolument pas.
Moi, je me demande comment elle est toujours là. Parce que jusqu'à présent, j'aimerais bien... Enfin, ça, c'est... Elle n'est pas la seule, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle a fait de bien.
Ça, c'est une autre question. Oui. Mais oui, c'est...
Ah, non, je ne savais pas. Donc je comprends que c'est un point...
C'est un point délicat.
Oui, et important pour la gestion ici.
Tout à fait. Qui rend les choses difficiles. C'est vraiment le seul. Le reste, je pense... Qu'est-ce que je dirais d'autre? Oui, il y a deux trucs que je pense que je ferais différemment, mais qui sont assez anecdotiques, et qui concernent les nominations, en fait. Il y a une personne que, clairement, je n'aurais pas dû nommer dans le nouveau comité de direction... qui n'apporte pas la bonne dynamique. Et dans un cas pareil, c'est pas anodin. Hein. Une personne sur 8 qui n'est pas dans la bonne dynamique peut énormément faire de dégâts au reste. Hein. En particulier dans la situation que j'évoque maintenant avec la ministre qui alors exploite ce genre de divergence. Et l'autre, ça c'est plutôt une autre nomination, mais qui va nous coûter très cher, c'est que vu le système de nomination très lourd dans les administrations, en gros, nous nous sommes retrouvés à devoir nommer quelqu'un qui est vraiment à l'opposé de la culture que nous essayons de promouvoir. Mais administrativement, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais, d'une certaine manière, nous avons été piégés. Et ça, c'est très dommageable.
Et donc... Un point d'attention, c'est l'importance du choix des personnes
dans
le comité.
C'est fondamental. Et ça rejoint, je vais dire, ce que Jim Collins a bien montré dans Good to Great, je ne sais pas si ça vous dit, mais il dit « First who, then what ». En gros, choisissez d'abord la personne et puis vous verrez ce qu'elle fait. Et voilà, c'est... Et donc, parfois, il vaut mieux avoir quelqu'un qui n'a pas nécessairement les compétences en termes techniques qui seraient nécessaires pour tel ou tel poste, mais d'avoir la personne qui a l'esprit, qui a la dynamique, qui est prêt à rentrer dans cette culture. Voilà. Et le reste, ça suivra. Ça, c'est, je pense, vraiment le plus important. D'ailleurs, de ce point de vue-là, un de mes anciens patrons m'avait dit, peu de temps après être arrivé et avoir constitué sa nouvelle équipe, dis, moi j'ai fait l'essentiel de mon boulot maintenant. Parce que c'est ça, c'est constituer une équipe qui va pouvoir porter un projet, un changement culturel important. Et après, c'est leur laisser, entre guillemets, l'espace et l'autonomie pour pouvoir le faire. Donc le choix des personnes est vraiment quelque chose de fondamental. Ça mène d'ailleurs certaines boîtes à avoir des pratiques de recrutement très innovantes. Chez, par exemple, Gore, il ne recrute pas pour une fonction prédéterminée, il recrute des gens qu'ils estiment avoir le bon profil en termes de dynamique, etc. Et puis ils leur laissent trouver leur boulot au sein même de l'entreprise et de le créer.
Ils leur laissent trouver leur boulot.
Ouais, et ils ont tout le temps pour le faire. Mm-hmm. Voilà, ça me paraît quelque chose de très, très intéressant à faire. À nouveau, ça c'est quelque chose que malheureusement dans cette position où je ne pourrais pas faire.
Ouais, et ce sont peut-être, enfin, les spécificités du secteur public, ça peut pas amener un peu de frustration.
Bien sûr, mmh. Oui, de ce point de vue-là, c'est terrible. Mmh. Alors, moi, je suis persuadé que s'il n'y avait pas les règles, à mon avis, totalement archaïques, qui sont aujourd'hui en vigueur dans le secteur public, on pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins de personnes. Donc, mmh. et entre guillemets, alors, tout cet argent mmh. épargné, l'utiliser autrement dans le secteur public ou dans d'autres façons. Et oui, il y a de ce point de vue-là une déperdition d'énergie énorme. Donc aujourd'hui, il est vrai que, vu les circonstances actuelles, j'estime que dans beaucoup de secteurs de l'administration, nous n'avons pas assez de personnes, mais ce n'est pas vrai dans l'absolu. Okay. Dire que s'il y avait moyen... Mm-hmm. Si on avait la liberté de véritablement réorganiser les choses et de nous débarrasser de toute une série de règles complètement imbéciles, on pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Ça, je suis persuadé.
Mais est-ce qu'il y a quand même déjà des avancées par rapport au fait que vous
bien
avez...
Bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Donc, ça ne retire pas que, voilà, on a pu faire tout ce que je vous ai raconté maintenant et que ça a permis de grosses avancées. Mm-hmm. Certainement, mais on pourrait aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Mm-hmm. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais voilà. Cela dit, en 3 ans, je trouve qu'on peut être quand même content de ce que nous avons réalisé au sein du SPF. Mm-hmm. C'est quand même... Si vous aviez vu et senti la dynamique qu'il y avait il y a 3 ans et celle qu'il y a maintenant, c'est, je pense vraiment... Et je pense que les gens ne s'en rendent pas toujours compte parce qu'eux étaient dans le processus, mais c'est quand même assez fort. Effectivement, tout à fait différent.
Il y a eu un déménagement en 10 mois, je crois.
Oui, de ce point de vue-là, on a des équipes qui ont fait un travail extraordinaire au niveau facility management, très très mm-hmm. positif. Non, beaucoup d'égards, on a des gens très très bien, mais ce qui n'enlève pas qu'on pourrait faire beaucoup mieux si on pouvait le faire autrement.
Okay.
Mais ça, aujourd'hui, malheureusement, à nouveau, au niveau politique, ils ne sont pas du tout dans ce trip-là.
Et si vous aviez un ministre qui vous suivrait sur toute la ligne, est-ce que c'est possible qu'une seule administration puisse, si elle a le soutien de son ministre ?
Non. Okay. Non, malheureusement pas. Non, il faudrait vraiment qu'il y ait un changement global. Parce qu'un ministre, évidemment, je dirais qu'un ministre, ce qu'il peut surtout faire, c'est d'éviter de mettre des obstacles supplémentaires. Ce serait déjà pas mal.
Ouais.
Ça ne suffirait pas parce que le reste des règles qui nous bloquent sont définies au niveau de l'ensemble du gouvernement et requerraient vraiment une autre vision partagée et très fortement partagée au sein du gouvernement. Par exemple, ce qui me paraît poser un gros problème pour le futur, c'est que pour l'instant, le gouvernement veut centraliser toute une série d'opérations. Je pense que c'est une très mauvaise idée.
Les 4H ?
Oui, par exemple, hein, ce qu'a évoqué tout à l'heure Quentin sur le fait qu'il va devoir transférer toute une série de personnes à des niveaux centraux. Moi, il y a comme ça toute une série de projets pour centraliser les choses. Je ne crois vraiment pas que ce soit une bonne chose.
Mais c'est un retour en arrière. Enfin, c'était centralisé, on a redécentralisé maintenant. Mais je fais ma mission au SPF PNO sur
oui,
ça.
Oui.
Et c'est assez intéressant et on a fait un benchmarking pour savoir dans la situation dans différents pays. On trouvait que notre situation, elle était déjà pas mal avancée et donc qu'on savait... Enfin, si, on le sait pourquoi c'est une volonté politique, mais en fait, il y a par exemple, c'est la Nouvelle-Zélande. Oui. Avant de se lancer dans ce processus, elle a fait vraiment des études de scénarii pour savoir si effectivement, il y allait avoir plus d'efficience.
Tout à fait.
Fusion n'égale pas efficience. Et donc,
tout à fait.
C'est un
tout
peu se lancer...
Tout à fait. Ici, ils veulent de la fusion comme si c'était garanti que la fusion va améliorer plus d'efficience. Moi, je crains au contraire que ça va éloigner beaucoup plus des problèmes que vivent les gens sur le terrain au quotidien. Et que ça ne va pas améliorer fondamentalement l'efficience. parce que je ne suis pas sûr non plus que les personnes qui vont être les pilotes de ces centralisations soient avant tout animées par plus d'efficience. Ils sont avant tout animés par plus de pouvoir. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc j'ai des grosses craintes. Je les ai communiquées, mais on ne m'a pas écouté.
Mais c'est ça qui est un peu... Enfin, on nous demande de faire des recommandations, etc. Bon, évidemment, à notre échelle, mais on se dit aussi pourquoi des recommandations. Il n'y a même pas une discussion, il n'y a pas un dialogue. Pas par rapport à nous, mais par rapport... Enfin, je sais qu'il y a des gens chez P&O qui sont conscients que ce n'est peut-être pas la bonne solution, mais il n'y a pas de discussion. Non, c'est fini, c'est une volonté politique.
Tout à fait.
Mais ça, en Belgique... Enfin, je ne sais pas si c'est...
Oh, je crois que ce n'est pas seulement en Belgique, mais c'est sûr qu'en tout cas, ça...
C'est un peu frustrant et...
C'est très frustrant. Mmh. Ah oui, c'est vraiment frustrant.
C'est comme ça.
C'est comme ça. Et alors, toi, tu travailles pour P&O aussi, alors ?
Oui.
Tu travailles ou tu fais un mémoire
Donc, j'ai fait mon mémoire pour terminer mon année à l'ULB. Et en même temps, on a une mission de consultance.
Ah, une mission de consultance pour le SPF
P&O.
P&O.
Ouais, dans le cadre de mon mémoire, j'ai été...
C'est ça. Et dans ce cadre-là, effectivement, tu traites de ces problèmes de centralisation.
Oui. Ouais. Mm-hmm. Et on fait des interviews avec...
Ouais.
Et là aussi, ces gens qui vont vivre ce changement ne sont pas du tout convaincus. Et je pense que eux savent de quoi ils parlent.
Exactement. Et donc... Mais ça, on ne les a pas écoutés. Mm. C'est pas du tout écouté. Ça, c'est une catastrophe. Donc, il y a eu quelques mecs dans des cabinets qui viennent eux-mêmes de cabinets de conseil, etc., et qui partent d'idées, à mon avis, toutes faites, que voilà, on va réduire les coûts en centralisme. Mais pas du tout.
Non. On dirait vraiment que, bon, voilà, on est ici pour 5 ans ou 6 ans, et on veut faire quelque chose.
Oui,
et donc, on va faire ça.
Ouais. Et du genre. Allez, pour moi, je trouve que l'exemple est parlant. Centralisation des achats. Pouvez-vous dire, ah très bien, a priori, si on centralise les achats, on a plus de volume et donc on a une meilleure négociation vis-à-vis des fournisseurs. Sur le papier, ça pourrait éventuellement tenir la route. Pour autant qu'on se dise, ceux qui vont être les acheteurs centraux, ce sont des tops acheteurs. Mais si... vous centralisez, et que ceux qui sont les acheteurs centraux ne sont pas des tops acheteurs. Ça peut être pire que tout, parce que vous allez avoir en fait une négociation centrale moins bonne que la décentralisée. Donc l'effet positif que vous auriez, parce que vous auriez des volumes plus importants, risque d'être perdu, mais alors avec des conséquences très très négatives, si vous avez mal négocié votre truc. Or, c'est ce qui se passe. Combien de fois nous devons passer par des procédures d'achat qui ont été négociées au niveau central, par exemple sur du matériel informatique, et donc a priori où ils auraient eu, grâce à leur puissance, entre guillemets, centralisée, avoir des prix très bas, on se rend compte que les prix qu'ils ont négociés en centralisé sont plus élevés que les prix que nous pouvons négocier à notre niveau. Si vous ajoutez à cela que il peut y avoir aussi des spécificités qui font qu'il vaut mieux ne pas rentrer tous dans le même moule. Mm-hmm. Vous perdez des centaines de milliers, voire des millions d'euros dans ces trucs-là. C'est dingue.
Ouais.
Et je pense que au niveau HR, ça va être la même chose. Les gens qui vont être soi-disant chargés de suivre la carrière, comme le dit Quentin, des gens, etc., mais qui vont le faire au niveau central sans aucun feeling avec...
Un IT...
Et les gens sur le terrain, dans ce SPF, qui n'est pas le SPF finance, etc., ça va être... Ça va être, à mon avis, très très mauvais.
Et les cultures, tous ensemble...
Non, vraiment, si on avait des gens pros qui pouvaient faire ça et qui vont le faire dans une dynamique... vraiment de top service, etc., peut-être que ça pourrait avoir un impact positif, mais ici, je n'y crois absolument pas.
Mais déjà, le temps qui... Enfin, comment ils ont planifié leur projet, on est là, mais allez, il y a un cas concret qu'il a fait, la Nouvelle-Zélande.
Oui.
Mais au moins, inspirez-vous.
Inspirez-vous de ça.
Peut-être, oui.
Et non.
Mais non.
Je sais. C'est ça qui est dramatique.
Déjà, à mon niveau, je suis un peu frustrée, mais alors pour quelqu'un qui travaille dans l'administration... Et qui ressent directement les impacts.
C'est pas évident.
Non, c'est pas évident.
Quand tu dis le modèle de Gates, toi, tu le résumerais comment? C'est quoi, toi? Comment tu le comprends?
Mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas un modèle. Mm-hmm. Mais je voulais étudier...
Oui, à partir...
De ce modèle,
et oui, c'est sympa,
quelles sont les convergences, etc. Mais je pense que les points les plus importants, c'est vraiment l'être humain, le facteur humain, étudier, enfin, connaître ses besoins, etc., améliorer l'autonomie, la responsabilité, la liberté. Moi, je suis tout à fait pour. J'ai juste des réflexions concernant les chefs et comment essayer de ce qui est discuté ici ou au comité de direction arrive en bas concrètement. Et je pense que c'est un processus assez long, enfin, pour changer la mentalité des gens, pour que les gens soient aussi heureux, parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour plus d'autonomie et de responsabilité.
Mais c'est-à-dire que, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut être nuancé. C'est que tout le monde, à nouveau, n'a pas le même niveau de maturité.
Hein. Ah oui.
Et tout le monde, vu son expérience, n'a pas la même volonté de prendre l'autonomie ou de l'initiative. Mais je crois qu'il est quand même plus naturel pour n'importe quel être humain, d'avoir une volonté d'autonomie que d'avoir une volonté de, entre guillemets, de soumission et d'obéir à des ordres. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas certains cas pathologiques qui se complaisent absolument dans la soumission, et etc., mais je pense que la plupart des cas qui sont dans ce mode-là le sont parce qu'ils ont eu de très mauvaises expériences avant et que, bon, psychologiquement, ça les a affectés. Mais à mon avis...
C'est dans les besoins universels.
Voilà, je pense que l'être humain a une aspiration naturelle à plus d'autonomie. Mais après, c'est vrai que certains ont été, entre guillemets, mis dans des corsets depuis tellement d'années que si vous retirez brutalement un corset, il se déglingue. Ça, c'est possible. Mais c'est quand même rare. Je pense que c'est souvent des fables inventées par ceux qui veulent garder le corset parce que ça les arrange. Et que, aussi, moi, ce qui me donne confiance de ce point de vue-là... Oui ? Oui, j'arrive. C'est que, si tu veux, les gens... tu vois des gens qui sont ici, soi-disant, soumis, qui ne veulent pas prendre des initiatives... Et quand ils sont hors du boulot, dans leur famille, dans leur série de quartier, etc., ils en prennent. Mmh. Donc je me dis qu'a priori, leur nature est les plus portée à en prendre. Et en général, tu vois moins l'inverse. C'est-à-dire des gens qui seraient hyper autonomes et puis qui deviendraient des loques à la maison ou dans leur... À la limite... Ceux qui sont comme ça, ce sont justement les chefs autocratiques. C'est un peu, pour prendre la caricature, le grand patron hyper dominant, mais qui est qui se fait, qui a une femme qui est dans le sadomasochisme, quoi, tu vois, avec le fouet et les trucs comme ça. Ça, il y en a, effectivement. Mais c'est quand même...
Oui.
C'est un peu pathologique, pervers et problématique. C'est pas les gens qui travaillent au quotidien qui sont comme ça. C'est les gens qui sont un peu
un
gros problème.
Mais
donc, ça prend du temps. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Mais que c'est passionnant en même temps. Hein,
j'imagine. Quel challenge.
De faire bouger ça. Mais ça demande beaucoup d'énergie.
Et une bonne équipe.
Et t'imagines, tu vois, un type comme Quentin. Bon, avant, j'avais quelqu'un qui était très bien, par ailleurs. Mais qui, lui, était vraiment un administratif. C'est même pas comparable, si tu veux, à ce que Quentin apporte à l'organisation avec la dynamique qu'il a, avec la volonté d'aller dans cette direction-là. C'est indispensable d'avoir des gens comme lui pour pouvoir faire avancer les choses. Tout seul, je peux pas y arriver.
Un grand merci.
Mais de rien, avec plaisir.
Un grand merci.
Si tu fais un compte-rendu, ça m'intéresse que tu l'envoies.
Ok.
Envoie-moi ton mémoire aussi.
Ok, ça va.
Et envoie-moi ton enregistrement.
Ok,
ça va.
Ok, je vous envoie tout ça.
Très bien. Et donc ton nom, c'est ?
Pauline Terrasse.
Pauline, voilà, Pauline. Très bien. Bon travail.
Merci, c'est gentil.
Merci beaucoup.
Vous m'avez donné plein d'informations.
Et tu travailles avec Franck alors, Van Massenhove aussi, ou tu as vu Franck dans le cadre de...
J'ai pas eu l'occasion de voir, on va aller voir... ah oui, pour le SPF Sécurité Sociale, non, j'ai pas su voir dans la hiérarchie. Non. Donc j'ai vu des employés, j'ai été voir le syndicat aussi, et des gens de chez Pied, non.
D'accord. Bon, écoute, bonne journée.
Merci, à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.